Vous écoutez IC Squatel. De CKIA FM, vous écoutez votre magazine féministe et libertaire favori, Ainsi soit-elle. Et cette semaine à l'émission, toute l'équipe, on est là, Marie, Tiffaine, Hélène et moi, Evelyne. Mmh. Et on vous parle d'un sujet quand même assez délicat. On aborde la question du consentement et des agressions sexuelles. D'abord en actualité, ensuite avec du contenu qu'on a trouvé dans différentes zines. Puis ensuite, on va conclure l'émission avec un calendrier. Donc, l'émission est une émission qui contient quand même des propos qui peuvent être difficiles à entendre. J'aime mieux avertir l'auditoire parce que, particulièrement les personnes qui ont déjà vécu des agressions sexuelles, ça peut être vraiment quand même difficile d'entendre des petits bouts d'histoire sur cette question-là. Fait que, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à interrompre carrément l'écoute de l'émission, à aller chercher des proches pour l'écouter avec elles ou encore pour en parler après ou pour vous changer les idées. Si jamais vous êtes seul puis que nos propos provoquent une crise, vous pouvez appeler directement via le secours au 418-522-2120 ou encore le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel CALAX, le plus près de chez vous. Sur cette petite note d'avertissement, on commence en musique. Marie, qu'est-ce que tu as préparé pour nous distraire?
Oui, on va écouter de la musique relax du coup pour se détendre. C'est Shiwonizo, la chanson s'appelle Rebel Woman.
There will be no compensation because of your crime.
Toujours à l'écoute de CKIA FM, on commence l'émission avec une suite un petit peu de la semaine passée. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un article qui critiquait un peu les réactions dans l'opinion publique à l'agression sexuelle de Laura Logan. Mais ça a fait couler beaucoup d'encre et Tiffaine, toi, t'as trouvé un autre article qui critiquait lui aussi les réactions en général aux agressions sexuelles et qui prenait acte de ce cas-là pour en parler.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un article qui a été publié sur Alternet par une auteure du Women's Media Center qui s'appelle Sheila Raja. J'espère que je prononce son nom à peu près correctement. Qui réagit à tous les commentaires qu'il y a eu sur Internet au sujet de l'agression sexuelle de Laura Logan, qui je sais pas si vous vous rappelez de l'émission de la semaine dernière, mais donc qui est une reporter de CBS qui a été battue et agressée sexuellement pendant qu'elle couvrait les événements en Égypte au Caire, donc dans les dernières semaines. Puis cet article-là se penche un petit peu sur les mythes qu'il y a autour du viol et donc qui décrivent les préjugés puis les stéréotypes ou les croyances qui sont complètement fausses autour du viol, des victimes de viol puis des violeurs. Donc, tu sais, on parle dans ce temps-là des commentaires du genre elle aurait pas dû s'habiller comme ci ou comme ça, ou en fait, ou des commentaires qui par rapport à la beauté de cette reporter-là. Donc, ou encore même juste simplement son choix d'être une reporter en Égypte ou une reporter à l'international, qui sont utilisées comme des justifications de cet événement-là dont elle a été victime. Donc, l'article est vraiment intéressant. Si vous voulez le lire, ça s'appelle « Rape Myth Persists, Reactions to the Assault on Laura Logan ». Bon. Ça fait le point un petit peu sur les mythes du viol, puis aussi ça corrige l'information, donc en nous rappelant que tout le monde peut être victime d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles, puis donc fait un petit peu un topo de manière dont on peut supporter une personne autour de nous qui aurait été victime d'agression sexuelle. Donc, je sais que tu vas y revenir un petit peu plus tard pendant l'émission. Et puis, donc, je vous laisserai lire cet article-là qui est très intéressant. Mais aussi, bon, ben, juste pour vous rappeler, c'est pas des mythes qui ont cours seulement aux États-Unis ou ailleurs. Donc, au Canada aussi, dernièrement, on a eu un rappel assez clair que que ce type de mythe-là
persiste,
puis particulièrement persiste dans des sphères, tu sais, chez des gens qui sont qui ont un pouvoir assez important sur les victimes. Donc dans ce cas-ci, un juge au Manitoba qui a déclaré une personne coupable d'agression sexuelle, mais qui a fini par pas lui donner du tout de peine. On pourra revenir sur cette question-là aussi, là, quelles sont les bonnes façons de soit de punir ou de réagir à une agression sexuelle, mais toujours est-il que dans le système actuel, généralement, un agresseur sexuel est passible de prison, puis dans ce cas-ci, le juge n'a pas jugé bon d'envoyer l'agresseur en prison, puis lui a seulement donné 2 ans donc sans prison, mais avec... pardon, je perds mes mots...
pas prison dans la communauté qu'il y a eu?
Oui, quelque chose de ce type-là, mais il y a la possibilité de garder son emploi même au conseil municipal de la ville où il habite, malgré le fait qu'il ait été reconnu coupable d'un viol. Donc, la semaine dernière, il y a des manifestantes et manifestants qui se sont regroupés pour demander la démission du juge Robert DeWar, qui, puis, mal, tu sais, donc, la... La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants a organisé cette manifestation-là. Puis, pour l'instant, ça semble avoir quand même un impact assez positif, là. Entre autres, le gouvernement du Manitoba a déposé une plainte pour que ce juge-là soit, en fait, que sa décision soit révisée.
Je me trompe pas, c'est dans cette décision-là que non seulement la décision a été dénoncée, mais surtout les arguments qui étaient utilisés par le juge pour atténuer un petit peu la responsabilité du coupable.
Oui, tout à fait. Il a choisi de pas donner de peine de prison en expliquant que, dans le fond, la victime avait donné l'impression qu'elle était intéressée à avoir des relations sexuelles parce qu'elle avait, soi-disant, apporté des vêtements qui étaient trop affriolants, puis elle avait d'abord dit oui à son agresseur avant de changer d'avis, puis ça a été clairement même admis par l'agresseur qui, tu sais, que la victime avait refusé d'avoir des relations sexuelles, puis il a fini par la forcer à le faire quand même sur une route sombre et tout ça. Donc c'est vraiment un cas très clair de viol, et puis malgré ça le juge a cru bon de blâmer la victime dans ce cas-ci.
Oui, dans le témoignage d'ailleurs que j'ai lu dans l'article dont tu parles, la victime disait justement qu'entre autres, elle avait une cicatrice sur son genou, donc il y a eu même violence physique. Le juge avait besoin, comme les mots, c'est passé pour lui, puis il a besoin de preuves physiques, là. Elle disait justement que les jours, quand elle s'élevait, elle pensait à ça, entre autres à cause des souvenirs, mais aussi qu'elle avait des traces marquantes sur son corps que lui aussi aurait pu observer, en fait.
C'est bien choquant, tout ça. Je pense que c'était tout pour cette triste nouvelle.
Oui.
Alors, on va essayer de digérer tout ça avant d'en reparler un petit peu après la chanson. Marie, qu'est-ce que tu nous as préparé?
C'est Sylvia Blanco sur un album des Garifuna Women's, et la chanson s'appelle « Fais-le ici ».
Cette semaine, on parle d'agression sexuelle, de viol. On était choqués avant la pause par cette nouvelle où un juge blâmé les victimes de viol, dans le fond, alors que c'était clair que sa victime avait dit non, avait refusé. Alors, non, ça veut dire non, c'est ce qu'on répète toujours quand on parle du viol, mais plus précisément, qu'est-ce que c'est un viol? J'ai trouvé une petite définition que je trouvais quand même assez intéressante. Un viol, c'est une relation sexuelle non consentie, avec ou sans pénétration, avec ton, tes compagnons, avec un inconnu, avec ou sans violence physique. Le viol, ce n'est pas seulement l'image stéréotypée d'un gros méchant qui nous poursuit avec une arme dans une rue sombre, mais c'est aussi un moment où on n'entend pas notre nom. Pas maintenant, ça veut dire non. J'ai un copain ou une copine, ça veut dire non. Peut-être plus tard, ça veut dire non. Non merci, ça veut dire non. T'es pas mon genre, ça veut dire non. Va te faire foutre, ça veut dire non. Laisse-moi tranquille, ça veut dire non. Allons juste dormir, ça veut dire non. Je t'aime bien, mais ça veut dire non. Je suis pas sûre, ça veut dire non. Touche-moi pas, ça veut dire non. T'as trop bu, j'ai trop bu, ça veut dire non. Ça veut dire non. J'ai mal à la tête, ça veut dire non. J'ai une activité, ça veut dire non. Rien, ça veut dire non. Le silence, ça veut dire non. Donc, c'était un petit zine sur « non, ça veut dire non » que j'avais envie de partager avec vous. Et je voulais revenir peut-être sur qu'est-ce que Tiffaine a présenté plutôt sur les mythes, les principaux mythes qui concernent les agressions sexuelles. Dans le zine que j'utilise pour vous présenter ça, qui s'appelle « A Word Without Sexual Assault », on identifie 5 mythes autour des agressions sexuelles. Le premier, c'est les agressions sexuelles, ça concerne les autres. Souvent, on pense justement aux agressions sexuelles comme quelque chose qui se passe loin de nous, alors que, dépendamment des statistiques, on parle entre 40 et 75 des femmes qui vont avoir expérimenté une ou plusieurs agressions sexuelles dans leur vie. Il y a des statistiques qui vont jusqu'à dire qu'une femme sur 4 et un homme sur 5 auraient vécu une forme d'agression sexuelle avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Donc, ces statistiques-là sont quand même effrayantes, mais on sait qu'en matière d'agression sexuelle, c'est toujours des statistiques qui sont sous-évaluées parce que dénoncer une agression sexuelle, c'est très difficile. Puis il y a des questions difficiles de définition, justement, des agressions sexuelles. Donc, dans la réalité, à peu près tout le monde qu'on connaît a déjà vécu directement ou indirectement une agression sexuelle. Souvent, parmi les mythes, c'est comme un sous-mythe, il y a le mythe que les femmes violent aussi. Mais alors, comme j'ai dit, un homme sur 5 aurait été déjà agressé sexuellement, même avant l'âge de 18 ans. 90% des viols rapportés sont commis par des hommes. Et même les victimes hommes sont souvent violées par d'autres hommes. Et on va le voir un peu plus loin, c'est souvent par des hommes hétérosexuels. Le mythe numéro 2, c'est que seulement les psychopathes et les gens fous commettent des agressions sexuelles. C'est un petit peu dans le même sens. Ben c'est pas le cas. En fait, c'est comme on l'a dit dans la définition du viol, la plupart des femmes ne sont pas violées quand elles sont seules dehors la nuit. La plupart des femmes sont violées à la maison quand elles se sentaient en sécurité, soit dans leur domicile ou dans le domicile de leur conjoint ou de leurs amis. Donc, la plupart des hommes qui commettent des agressions sexuelles connaissent leurs victimes. C'est soit l'homme dans leur vie, un parent, un ami, un ex. Donc, faut déconstruire notre vision des agressions sexuelles comme étant vraiment quelque chose qui est vrai juste quand ça se passe entre des inconnus. Le troisième mythe, c'est, je fais comme de la traduction simultanée, là, mais les hommes ne peuvent pas se contrôler. On parlait tout à l'heure de l'habillement des femmes ou de leur prétendue beauté. Dans le zine ici, il explique à quel point la plupart des agressions sexuelles sont planifiées, impliquent de la manipulation, puis une forme de contrôle. Donc, c'est pas un crime. Les agressions sexuelles sont pas un crime de personnes commises par des personnes en manque. La plupart des agresseurs sont des hommes mariés qui ont par ailleurs du sexe consensuel avec leur femme. Donc, il faut pas voir tout ça tout noir, tout blanc, ou c'est ça, des hommes qui sont en manque de sexe et qui vont violer seulement des jeunes femmes attirantes sexuellement. C'est pas du tout le cas si on regarde les statistiques. Donc, sous-jacent à ce mythe-là, il y a tout le mythe autour du fait que les femmes qui portent des vêtements affriolants, par exemple, demandent ou méritent d'être violées. Tout le mythe autour du fait que dans le fond, que les personnes
l'ont cherché,
que les personnes toute cette vision-là du viol, en fait, comme quelque chose se produisant entre inconnus dans la rue, tout ça, puis que les femmes, dans le fond, apprécient du sexe non consensuel, c'est tout ça tourne tout autour du mythe de la propriété des femmes. Tu sais, si c'est le viol dans la rue, à l'extérieur, qui est le plus connu ou...
Imaginer,
c'est ou juger comme grave, c'est parce que c'est comme si la propriété de quelqu'un était accaparée par quelqu'un d'autre, alors que les viols qui se passent à l'intérieur des maisons ou à l'intérieur des relations, ils sont invisibilisés par ce mythe-là. Le quatrième mythe qui est écrit dans ce zine-là, c'est le mythe autour duquel les hommes ne seraient jamais violés. Donc, encore une fois, il s'appuie sur une statistique sur l'abus sexuel des enfants de sexe masculin. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette réalité-là est cachée. Donc, quand on interagit aussi avec des hommes, on peut prendre ça pour faire attention aussi à leur passé, à eux. Donc, dans un sous-mythe aussi, il y a toute la question du fait que toutes les victimes d'agressions sexuelles deviennent des violeurs, ce qui n'est pas le cas non plus, évidemment. Donc, le dernier mythe que cette brochure-là insiste, c'est le mythe autour de la question des fausses accusations. On dit souvent, en matière d'agression sexuelle, qu'il y a beaucoup, beaucoup de fausses accusations, donc il faut aller vraiment examiner les faits avant de prendre une action. Mais ça, c'est vraiment traître, puis c'est vraiment mal connaître les difficultés qui entourent le fait de faire une dénonciation, puis c'est mal connaître la réalité même de l'agression sexuelle, parce que tu peux pas, c'est pas une question de fait, quelque part, c'est une question de vécu, puis de dire qu'il faut aller vérifier les faits objectivement, ça délégitimise vraiment, vraiment la parole, puis le vécu de la personne qui a vécu l'agression sexuelle. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous dire en première partie. On va revenir un petit peu plus tard sur les réactions immédiates et à moyen terme des personnes qui se font agresser sexuellement.
On écoute Kazé, une chanson qui s'appelle « Pas à vendre ».
En falche. Il faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusille des yeux la façon dont je m'habille, me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille. Quelle importance, mes séquelles, fais ta route, ce que tu penses n'influence pas ma manière d'être. Et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre, car je ne rendais compte qu'à celle qui m'a vu naître. Je ne suis pas cette bête de foire que l'on dompte, ou bien même à qui l'on monte sur la tête. Et cette vie propre et nette de michetons aux petites minettes, je n'en veux pas, laisse-moi sur ma planète. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre. Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre. Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Je me rappelle encore cette époque, RERB bondé, je sortais de mon bloc. Marchais avec dans les oreilles du peura ou du rock. Dans ces longs couloirs, gare du nord où tu suffoques. Correspondance, belles adresses et coins classe. Moi mon sac à dos, mes locks, mes adidas. À l'évidence, ma seule présence c'est de l'audace. Parmi ces petits cons friqués et grandes blondasses. Puis j'arrive enfin dans ce label pour lequel j'ai mis un couplet sur une compile. Tu sais, en général, si ces connards m'appellent, c'est qu'ils n'ont eu personne d'autre au bout du fil. Bref, je signe l'heure de trois paperasses et me casse. Avec dans la poche le montant de ma séance, ne monte pas de film, y'a pas de quoi quitter la crasse. Juste rincer mes potes d'en face dans une ambiance. Et en sortant, devine qui je croise. Le dernier rappeur à la mode qui me toise. Tout naze, ce guignol qui tape des poses avec sa gueule et son blase sur un t-shirt rose. Et cette espèce de macaque qui calque les caries, flambe et fait le coq. Il se vante d'avoir signé ici pour plusieurs plaques et me dit que son disque cette année dans les bacs sera le choc. Mais un album pourri plus tard, un soir, je revois l'ex future star dans un bar. Il veut boire, me gratte comme un clébard, me dit que chez la major, son contrat d'or dans un tiroir. Et maintenant il est en loc. Il n'a plus d'enseigne et ça me fait en cloque. Il me dit qu'on devrait aller brûler son label et Skyrock. Fous-moi le camp qui t'avait dit d'aller baisser ton froc. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Quoi? Moi? M'assagir? Obéir aux lois de l'argent sans réagir. Produire du son pour pisseuses et ménagères. Apparemment tu ignores à qui tu as affaire. Or et saphir ne pourront pas suffire à racheter tout ce que j'ai souffert. Et je préfère fuir le confort et kiffer mon atmosphère plutôt que de me laisser passer les fers. Ok, mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Ah, mon mode de vie n'est pas à vendre. Casé, en falche, les intraitables, les incorruptibles, les redoutables. Ah, prends ça dans ta gueule.
Sur les ondes de CKIA FM, le 88,3, vous écoutez Ainsi squat-t-il. En début d'émission, j'ai fait un avertissement comme de quoi entendre parler d'agression sexuelle, ça peut susciter des réactions. En anglais, on appelle ces réactions-là, on appelle les éléments qui déclenchent des réactions de panique ou autres, des triggers. Parce que à court terme, les personnes qui... survivre à des agressions sexuelles peuvent ressentir de la peur, de l'anxiété, de l'embarras, de la honte. Ils peuvent se sentir coupables, se sentir responsables, se sentir vulnérables. Ils peuvent pleurer, ils peuvent crier, être suspicieux. Il y a vraiment toutes sortes de réactions. Les gens peuvent aussi se sentir blessés, se sentir froides aussi, désorientés, avoir des nausées, vomir, hyperventilation, souffrir de dissociation, de sortir un peu de son corps, avoir des flashbacks, des choses comme ça. Puis il y a tous les symptômes physiques aussi, évidemment, de douleur, de tensions musculaires, d'infections, les maladies transmises sexuellement aussi, évidemment, des hallucinations olfactives, des hallucinations tactiles, des problèmes de sommeil. Ça, c'est à court terme. Et à moyen puis à long terme, les réactions sont tout aussi diversifiées. La liste est extrêmement longue, mais souvent, les réactions à moyen ou long terme sont provoquées par un genre de déclencheur. Puis, dans les îles où est-ce qu'on parle de support et de quoi faire pour supporter les personnes qui survivent à des agressions sexuelles, on parle souvent d'avoir un trigger plan. Donc, ça consiste à... c'est en quatre étapes. Dans le fond, c'est... se rendre compte ou faire la liste des choses qui ont tendance à nous projeter dans un état comme ça de réaction. Essayer de vraiment identifier des comportements spécifiques qui nous provoquent ces réactions-là et d'identifier les sensations qu'on ressent à ce moment-là ou qu'on ressent un petit peu juste avant. Ensuite, on peut essayer d'arrêter... ces comportements-là ou de se retirer d'une situation en particulier qui nous provoque ces réactions-là. Mais des fois, c'est des choses que tu peux pas arrêter dans ta vie. T'sais, si c'est se trouver dans sa cuisine, t'sais, c'est quand même difficile de pas le faire, là. Puis si c'est avoir une relation sexuelle, mais ça se peut que tu décides à un moment donné que tu veux pas juste arrêter. Donc, dans son trigger plan, on peut identifier, par exemple, trois choses que tu peux faire quand tu ressens ces sensations-là et qui vont pouvoir arrêter la réaction en chaîne que ça peut provoquer. Ensuite, la troisième étape, c'est de choisir. Donc, choisir comment tu veux procéder quand ces choses-là t'arrivent. des fois, tu peux essayer quelque chose, puis après, si tu te rends compte que tu fais toujours le même choix, tu t'optes toujours pour la même solution, puis que ça marche pas nécessairement, tu peux décider de choisir autre chose. Mais cette étape-là de choisir toi-même comment tu veux que ça se passe, ben ça permet de reprendre du pouvoir, en fait, sur du contrôle sur sa vie, puis avoir un sentiment de contrôle sur ce qui nous arrive, parce que des réactions comme ça peut être très, très déstabilisant. Et la quatrième étape, ben c'est... au lieu de juste arrêter, rendu à cette étape-là, c'est d'essayer de faire une action active, dans le fond, ou s'engager dans la stratégie qu'on a choisie. Donc, c'est là où est-ce qu'ils disent d'essayer différentes stratégies à ce moment-là pour reprendre du pouvoir ou du contrôle sur ce qui nous... Donc, je pense que je vais passer tout de suite en musique, puis on va revenir un petit peu plus avec les limites des approches actuelles, les approches plus juridiques en matière de réaction aux agressions sexuelles, et on va parler un peu de pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de littérature libertaire sur les approches communautaires de réaction collective aux agressions sexuelles.
Et on écoute un groupe de La Réunion qui s'appelle FOM.
Le jour 20 décembre, monter, le jour 20 décembre, le jour 20 décembre, moi, l'éparer pour Kras Malouya.
Moi, l'éparer pour Kras Malouya.
Si la place en Dagariga, si la place en Dagariga, si la place en Dagariga, nous va Kras nous de Malouya.
Nous va Kras nous de Malouya.
Madame des bassins infiniment, madame des bassins infiniment, madame des bassins infiniment, aujourd'hui nous marche des idées, aujourd'hui nous marche des idées. Le jour 20 décembre, le jour 20 décembre, mon bon. Le jour 20 décembre, moi les parés pour Kras Malouya, moi les parés pour Kras Malouya. Si la place en Dagariga, si la place en Dagariga, si la place en Dagariga, nous va Kras nous de Malouya, nous va Kras nous de Malouya. Madame des bassins infiniment, madame des bassins infiniment, madame des bassins infiniment, aujourd'hui nous m'a décidé, aujourd'hui nous m'a décidé.
sans monter, le jour m'a descendu, le jour m'a descendu, moi les barrés pour crâne malouya. Le jour m'a descendu, monter, le jour m'a descendu, moumou, le jour m'a descendu, moi les barrés pour crâne malouya. Le jour m'a descendu, monter, le jour m'a descendu, le jour m'a descendu, moi les barrés pour crâne malouya.
Sur les ondes de CKIA FM, toujours à l'écoute d'Ainsi soit-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. Et il y a des féministes libertaires, justement, qui trouvent que les approches actuelles en matière de punition des agressions sexuelles ont plusieurs limites. Bon, on sait que qu'un agresseur soit puni en justice, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de moyens aussi. Il faut être accompagné dans un processus judiciaire qui peut être quand même ardu. Donc, c'est un processus qui est quand même difficile et qui a l'inconvénient de faire revivre l'agression à la personne qui l'a vécu. Donc, toujours être obligé de raconter, puis de raconter, puis de raconter, tu sais, à son avocat, au policier d'abord, à son avocat ensuite, devant le juge, puis se faire interroger et contre-interroger au sujet de cette agression-là, ça, comme je disais tout à l'heure, ça délégitimise un peu l'expérience vécue de la personne qui a survécu à l'agression, parce que ça l'entre dans sa vie privée, ça lui demande, ça va poser des questions sur sa réputation, par exemple, ça met sa parole en doute. Donc, quand sa parole est mise en doute, donc cette personne-là se sent déjà assez honteuse ou liste de sentiments interminables comme ça. Donc passer à travers le processus, je sais que il y a plein d'organismes qui accompagnent les femmes qui font ça. Là, je suis pas du tout en train de vous dire de ne pas porter plainte, au contraire, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile pour les personnes et qui accorde très peu de pouvoir à la personne qui a vécu l'agression, qui se trouve à être un peu ballottée dans tout ce système-là où tel organisme voudrait absolument qu'elle porte plainte, etc., etc. C'est difficile d'établir une preuve hors de tout doute. C'est souvent parole contre parole parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des agressions se passent en privé. Ça invalide le vécu de la personne agressée. En plus, les juges, comme on le voyait tout à l'heure, sont souvent des hommes blancs dans la cinquantaine qui ont très peu de chances de comprendre un peu dans leur trip c'est quoi les conséquences d'une agression sexuelle. Les personnes qui commettent des agressions aussi, si on tourne la médaille de l'autre côté, même si elles vont en prison, elles sont rarement vraiment réhabilitées, dans le sens qu'on remet pas en cause les croyances qui sont sous-jacentes et qui ont rendu l'agression possible. On n'opère pas nécessairement directement par ce processus judiciaire-là de changement culturel de fond à la culture du viol. Je sais que des organismes comme les CALACS travaillent, justement, c'est écrit dans leur nom, hein, ils luttent, là, ils ont aussi un aspect politique qui lutte contre toutes ces valeurs-là, toute cette culture-là du viol, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de littérature, justement, libertaire, qui propose une approche un petit peu différente, une approche un peu communautaire, et qui propose de tenir responsables les agresseurs devant leur communauté. Donc, Stéphane, je pense que tu avais lu des conseils infaillibles contre le viol qu'on donne essentiellement aux hommes.
Oui, c'est ça. Comme d'habitude, on donne des conseils aux femmes qui sont pour le moins discutable, du type habillez-vous pas trop sexy, puis faites attention quand vous buvez pas trop, ce qui est qu'on répète souvent. Donc il y a des conseils qui sont beaucoup plus efficaces et qui s'adressent à des agresseurs potentiels. Donc par exemple, éviter de chercher à contrôler le comportement des gens en mettant de la drogue dans leur verre. Ça peut permettre aux femmes de boire tranquillement sans s'inquiéter. Éviter de faire semblant qu'on est un ami généreux pour gagner la confiance des gens et ensuite les agresser. Ça aide aussi. Pas agresser les gens dont la voiture est en panne lorsqu'on s'arrête sur le bord de la route pour les aider. Donc, c'est sûr que cette liste-là se veut un petit peu... ça veut un peu drôle, mais en même temps, c'est des conseils qu'on n'entend jamais tout simplement parce que on imagine les violeurs comme des gens qui sont à part de l'ensemble des hommes puis de l'ensemble de la société, comme des gens qui sont particulièrement malades mentaux ou quoi que ce soit. Tandis que cette liste-là nous rappelle que dans le fond, c'est les personnes qui commettent des agressions sexuelles, c'est pas une classe à part dans la population.
S'il y a autant d'agressions sexuelles, il faut bien qu'il y ait des gens qui les commettent, ces agressions-là.
Tout à fait.
Ça les rend responsables aussi, la liste d'avertissements à « Hey, toi, tu sais, mets pas de drogue, du viol dans l'alcool, la personne, c'est bon, je trouve, ça renverse plutôt que « Habille-toi pas trop sexy, mais là, prends pas trop un verre de trop, où tu tiens, sors pas toute seule, etc. » Ce qui, en, oui, comme ça, toi, responsabilise la victime.
Oui, c'est ça. Puis dans l'approche, là, j'aurai pas vraiment beaucoup de temps pour vous détailler un peu c'est quoi toutes les étapes puis les différentes approches qui sont dans cette approche, cette espèce d'approche communautaire-là pour tenir les agresseurs responsables dans leur communauté à l'intérieur et pour changer leurs croyances puis les perceptions qui font que ces personnes-là vont commettre d'autres agressions puis dépasser les limites de d'autres personnes. Mais dans tous les cas, il y a des zines qui existent, des textes qui existent pour quelques étapes ou quelques suggestions pour les personnes qui ont commis des agressions sexuelles et qui veulent opérer un changement dans leur vie. J'ai 10 suggestions aussi que je retrouve dans le zine A Word Without Sexual Assault que vous pouvez retrouver à la librairie sociale Autogérie, la page noire. Il y en a 10. Il y en a une qui ça se dit soyez honnête, restez honnête et devenez honnête. Respectez l'autonomie de la personne qui a survécu à l'agression. Apprenez à écouter. Soyez patient. Il y a des choses que ça prend beaucoup de temps à résoudre ou à guérir. Jamais, 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 jamais blâmer la victime. Parlez au jeu, parlez pour vous-même. N'essayez pas de faire taire les personnes qui parlent de l'agression ou qui en parlent, que ce soit la personne que vous avez agressée ou sa communauté. N'essayez pas de vous cacher derrière vos amis. Essayez de répondre aux souhaits de la personne que vous avez agressée et aux souhaits de la communauté, donc aux suggestions de la communauté. Prenez vos responsabilités, arrêtez les abus et le viol avant qu'ils ne se commettent. C'est un petit peu dans ce sens-là que les suggestions aux personnes qui commettent des agressions sont formulées. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de littérature, en fait, sur ces questions-là, sur le consentement. J'avais envie de revenir un petit peu avant la conclusion sur toute la culture du consentement, mais je pense qu'on va écouter une dernière petite chanson avant que je parle de ça, puis on va revenir avec des petites questions pour ramener un peu dans nos vies présentes les questions concernant le consentement, puis justement arrêter de voir ça comme une question qui concerne seulement les autres.
C'est ça, on va en musique avec Kazé, encore une fois, donc une rappeuse française d'origine martiniquaise, puis celle-là, elle est pour toi, Hélène, je pense qu'elle va te plaire.
Et des remords. et des taux d'antidépresseurs records, des sorties de cure, et puis ces camps obscurs où se procure la drogue dure pour une piqûre. C'est sans recours ni issue de secours, sans regard de compassion pour nos parcours. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir, y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire, y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir, y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire, y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Rien à foutre de vivre pour tenir les poutres et voir à ma fenêtre malheur et mal-être. Ne connaître que ces remparts qui m'ont vu naître, m'ont vu grandir et puis me verront disparaître. Et c'est les nôtres qui sont au centre pour subir la peur ou la faim au ventre. Fléchir à chaque fois devant chef et maître et réfléchir à tout ça le soir quand ils rentrent. On nous maltraite de 20h à 20h30. Nos vies font les gros titres dans leurs chapitres. Les journalistes flippent et leur cœur palpite, s'inquiètent qu'on fasse sauter sous tes cockpits. Y'a pas d'espoir dans mon périmètre, ma cote est nulle à leur applaudimètre. Tu peux me croire, faire l'étonner, sourire avec ironie. C'est le point de vue des damnés, des colonies. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir,
y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire,
y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir,
y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire,
y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir,
y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
De CKIA FM, c'est déjà la fin presque de l'émission Ainsi soit-elle cette semaine. On vous a parlé d'agression sexuelle, un sujet très sérieux pendant toute l'émission, mais je voulais terminer sur un thème un peu plus positif, le thème du consentement. En fait, on a dit tout à l'heure non, ça veut dire non, d'une part, puis on a dit d'autre part que plusieurs personnes avaient déjà vécu des agressions sexuelles. Donc, dans ce contexte-là, c'est d'autant plus important de rechercher un consentement actif des personnes avec qui vous entreprenez des relations sexuelles ou avec qui vous entretenez des relations sexuelles. Comme on dit non, c'est non, on peut dire aussi qui ne dit pas oui ne consent pas. Donc, c'est pas juste la capacité de dire non. On veut pas juste enseigner particulièrement aux filles à dire non, à mettre leurs limites, à préserver leur sexualité sacrée. On veut aussi apprendre à tous et toutes à dire oui. Donc, parler de consentement, c'est parler de permission, c'est parler d'entente mutuelle, c'est parler... Quand quelqu'un consent à quelque chose, c'est qu'il ou elle prend une décision informée. C'est que la personne est consciente de ce qui va se passer. C'est une forme de négociation où, dans tous les cas, où la personne peut dire qu'elle est d'accord avec les effets des actions qui vont se passer. Donc, à ce sujet-là, pour introduire la question en français, je vous conseille vraiment un zine qui s'appelle « Le consentement sans question sur les interactions sexuelles ». Parce que c'est pas quelque chose dont on parle vraiment souvent, demander vraiment explicitement le consentement de quelqu'un à chaque nouveau geste qu'on pose et de jamais prendre pour acquis le consentement, même quand on est en relation avec quelqu'un, même quand ça fait extrêmement longtemps qu'on a le même genre d'interaction sexuelle. Donc, je vous donne juste un exemple. Ils ont listé 100 questions, mais il y en a quelques-unes que je peux vous donner en exemple, comme par exemple, « As-tu déjà parlé de consentement avec ton ou ta partenaire avec ou avec des amis? T'arrive-t-il de te sentir obligé d'avoir une relation sexuelle? As-tu déjà essayé de demander à une personne ce qu'elle ressentait? » Que penserais-tu de ton ou ta partenaire s'il ou elle décidait de ne pas avoir de relations sexuelles avec toi pendant une semaine, un mois, un an? Parles-tu de sexe et ou de consentement lorsque tu n'es pas au lit? Donc, avec plein de petites questions comme ça, ça permet de ramener dans notre vie quotidienne, dans nos relations à nous, toutes les questions de consentement pour savoir respecter les limites de chacun, parce que, comme on l'a dit en début d'émission, les agressions, c'est toujours une question de dépassement de limites. Si vous voulez en savoir plus sur les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, moi, j'ai pris essentiellement ma documentation sur infokiosque.net. Il y a un zine qui s'appelle « Le viol ordinaire ». Il y a un zine aussi qui s'appelle « Le consentement sans question sur les interactions sexuelles ». Puis, en anglais, il y en a un petit peu plus, notamment sur zinelibrary.info. Il y a un zine qui s'appelle « Learning Good Consent », un zine qui s'appelle « Ask First », un qui s'appelle « A Word Without Sexual Assault », que j'ai cité abondamment, et un qui s'appelle « Taking the First Step, Suggestions to People Called Out for Abusive Behavior ». Donc, il y a certains de ces zines-là qui sont disponibles à la page noire, les autres, vous pouvez les trouver sur Internet. C'est ce qui m'était fait à ma petite chronique agression sexuelle. Et Hélène, vous avez une petite nouvelle et un calendrier pour
oui,
nous.
Oui, alors on est rendu au calendrier militant, sortez vos crayons, mais en fait, on a le 8 mars hein, qui s'en vient, donc j'ai pensé regarder pour vous d'où vient le 8 mars, parce qu'il y a beaucoup de mythes et légendes urbaines qui circulent sur le fait. Alors, évidemment, la vérité est russe, comme toujours, dans le milieu militant. Et c'est à Alexandra Kollontai qu'on devrait le 8 mars. Donc, je veux juste vous en parler un petit peu avant de passer au calendrier. Donc, Alexandra Kollontai, peut-être juste pour revenir sur ses débuts, voilà, qui nous mettent bien de l'avant là, le personnage auquel on a affaire. À 17 ans, elle a refusé un mariage de convenance. Elle a quitté sa famille pour épouser plus tard un jeune officier qu'elle a quitté aussi. Donc, on voit tout de suite, puis elle disait aussi clairement dans ses écrits et aussi verbale. Elle défendait le thème de l'amour libre, donc le concept d'amour libre, puis elle refusait aussi le concept de famille traditionnelle qui, évidemment, pour elle, subordonnait la femme au même rang que le prolétaire par rapport à son patron. Elle a vécu à Berlin, à Paris, Genève, en Italie, où elle a rencontré, entre autres, Lénine, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Paul Lafargue, donc un peu le gratin, entre guillemets, révolutionnaire de l'époque. Puis elle est revenue en Russie en 1905, où déjà, elle a fait preuve de ses talents d'oratrice révolutionnaire et féministe, et elle a même pris part à la prise du Palais du Verre. En 1907. En 1910, au deuxième congrès de l'International à Copenhague, elle représentait les ouvrières du textile de Saint-Pétersbourg et c'est là qu'est adoptée la décision de fêter chaque 8 mars la Journée internationale des femmes, le semble-t-il. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi? Oui, donc par la suite, juste pour conclure sur la vie de cette Alexandra Kollontai, elle était vraiment une membre active des actions collectives des femmes qui ont amené plusieurs réformes sociales. Entre autres, en fait, bon, multipliant les conférences et les meetings, elle est revenue en Russie en mars 1917. C'était la seule femme au comité central bolchevique. Je ne sais pas si ça a été agréable pour elle. Et elle s'est prononcée, entre autres, pour l'insurrection d'octobre. Puis, par l'action des femmes et de Kollontai, ça a permis, entre autres, l'obtention du droit de vote pour les femmes, le droit d'être élue, le droit au divorce, l'accès à l'éducation, au salaire égal avec celui des hommes et aussi les congés de maternité. Elle a également fait avec, bon, quand on dit elle, moi j'entends quand même mouvements sociaux en arrière, mais disons que c'est son nom que l'histoire a retenu. Donc, elle fait adopter le mariage civil, l'égalité entre les enfants légitimes et les enfants naturels et le droit à l'avortement aussi, obtenu en 1920, qui est supprimé en 1936 par Staline. C'est toujours intéressant de se rappeler qui sont nos amis et nos ennemis. D'ailleurs, elle était clairement anti-stalinienne. Bien avant Trotsky, elle va dénoncer les dérives bureaucratiques du parti. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant de savoir une petite leçon d'histoire. Peut-être juste pour terminer. Oui, absolument. C'est intéressant de voir comment elle a été attaquée pour les positions qu'elle mettait de l'avant. C'est-à-dire qu'on en parlait depuis tout à l'heure, la question d'être femme, justement la question de qui est victime ou agresseur, mais elle, c'était vraiment pas de dire ses idées sont choquantes ou rétrogrades, mais c'est vraiment sur le fait qu'elle était une femme et qu'elle prenait la parole publiquement qu'elle a été attaquée. Donc, dans les journaux, c'est ce que je trouvais dans l'article dont je vous fais part, en fait, il disait « Dans les journaux, elle était attaquée en tant que femme. » Donc, il l'appelait la scandaleuse, l'immorale. mais quand même, elle a continué quand même à prendre la parole. Puis quand elle s'est rendue aux États-Unis pour un voyage, entre autres, avec d'autres personnes du comité ouvrier pour faire, bon, disons, de la propagande politique, visiblement, dans les journaux, comment son départ avait été commenté, c'était « La colonne Taïnette part pour l'étranger si ça pouvait être pour toujours ». Sa réputation de sulfureuse aussi a été utilisée pour la discréditer parce qu'évidemment, s'affichant pour l'amour libre, contre le mariage, pour le divorce, ben évidemment, bon, ben c'est une putain, etc. Donc, je terminais avec la phrase telle quelle de l'article que je vais lire parce que je l'aimais bien. Ça dit « Parce que les enflures dans la presse, ça ne date pas d'hier. Ceux qui n'ont pas de conscience ont besoin de la morale et placent souvent cette dernière dans les petites culottes des femmes. Mm-hmm. » Je trouvais que c'était bien envoyé. Alors, voilà pour le 8 mars. Alexandra Kollontai, un nom à retenir. Calendrier, bien, si vous nous écoutez en direct, il y a toujours les mardis de l'anarchie. Aujourd'hui, 1er mars, si vous nous écoutez en direct, je le répète, c'est les révoltes arabes, des témoignages. Donc, comme vous le savez, un vent de changement souffle sur le monde arabe. Et, révolte spontanée, peuple opprimé qui rejette les vieilles dictatures, vous êtes au courant. Suivant l'exemple de la Tunisie qui a caché Ben Ali du pouvoir. Il y a l'Égypte qui a fait fuir Moubarak. En tout cas, qui essaye, si on est plus à jour. Mais ça devrait pas tarder, hein, on croise nos doigts. Donc, conférence avec le militant tunisien Majid Dridi et le doctorant égyptien Sayed Mustafa. Ça se passe au bar Coop Lagité, 251 rue Dorchester à Québec, si ça vous dit. Sinon, le 2 mars à 19h, il y a la table de quartier L'Engrenage de Saint-Roch qui vous convie à une soirée d'échange destinée aux citoyens et citoyennes. Donc, dans le fond, les gens sont invités à venir prendre la parole sur les enjeux du quartier. Et ça se passe au 435 rue du Roi, dans la salle communautaire, au deuxième étage. 5 mars, il y a une soirée de quilles, bénéfice contre l'homophobie. Et oui, ça se passe au 801 4e rue dans Limoilou. Tous les amateurs et professionnels de petites quilles sont invités à y aller, oui. Et c'est ça, le 8 mars, manif, oui, pour le 8 mars, on n'est pas en onde parce qu'il y a une manifestation, donc vous restez à l'écoute à Sequoia, mais si vous voulez plus d'informations sur la manifestation, vous pouvez consulter tous les blogs, Facebook, site web, la manif part de la Bibliothèque Gabriel-Leroy le 8 mars, et les filles d'Esquatelle seront là, donc on vous retrouve la semaine suivante. Bye!
On vous laisse, bonne soirée!